Bonjour. Merci à chacune et chacun des musiciens, des choristes qui nous ont précieusement accompagnés dans la louange. Et puis merci aussi à Lionel qui a magistralement déroulé le tapis rouge sur le thème de la parole. Et à propos de cette parole, peut-être que cela vous arrive aussi. Souvent, nous restons vis-à-vis de tel ou tel passage de la Bible sur notre première approche ou notre première interprétation. Et cela, même si nous avons lu ce texte depuis bien des années, un peu comme s'il s'agissait d'un acquis de compréhension sur lequel il n'est pas nécessaire de revenir. Et puis, allez savoir pourquoi. Un jour, alors qu'on parcourt ce même passage pour la énième fois, une question nous arrive, une question qui jusqu'alors jamais ne nous avait effleuré l'esprit. Eh bien, c'est très exactement ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, à propos d'un passage que vous et moi connaissons par cœur. Et ce passage, deux versets, que l'on trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. » Jusqu'à une date assez récente, j'ai résumé ou limité ma compréhension à ce qui suit. Chaque fois qu'une chrétienne, un chrétien témoigne, chaque fois que quelqu'un lit ou entend la parole de Dieu, bref, chaque fois que la parole divine est proclamée, cela forcément produit des effets, puisqu'aucune parole sortant de la bouche de Dieu n'est vaine. À quelque chose près, tels étaient les contours de ma comparaison sur la totalité, l'ensemble du texte que nous venons de lire. Mais alors, quelle est cette nouvelle question ? En relisant ce passage, je me suis demandé, mais c'est quoi cette histoire de retour ? Ma parole sort de ma bouche et revient et ne revient pas à moi sans effet. Quelles que soient les versions consultées, jusque-là y compris les plus anciennes, si bien l'expression « revenir à moi » ou « retourner à moi » qui est employée. D'où vient ce mouvement d'envoi puis de retour ? Pourquoi cette parole sort-elle de la bouche de Dieu ? Pour in fine et quoi qu'il advienne, retourner invariablement à lui, comme s'il s'agissait d'un effet boomerang. Autant c'est une évidence pour moi que cette parole soit envoyée et qu'elle circule pour produire les effets voulus par Dieu, autant ce principe de récupération, de retour à la source, me pose question. Or, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est bien de mouvement inversé qu'il s'agit, puisque les deux verbes employés sont « sortir » et « revenir ». Pour nous aider à la compréhension, le verset 10 nous fournit l'exemple de l'eau. « Il en est de la parole comme de l'eau ». Nous savons que l'eau passe par des états, par des étapes, elle est soumise à des cycles dont les effets sont régénérateurs et vitaux. nous savons aussi, et ce texte nous le rappelle, que l'eau retourne et revient toujours à l'eau. Si l'on raisonne schématiquement et dans l'absolu, on pourrait, je mets des guillemets et je l'emploie bien le verbe au conditionnel, on pourrait admettre que la masse totale actuelle de l'eau sur la Terre est la même que lors de la création, puisque jamais depuis l'eau ne s'est perdue, jamais elle ne s'est égarée ou dissipée dans le néant. Évidemment, c'est une hypothèse, c'est une vue de l'esprit et non une affirmation scientifique. Mais on pourrait dire la masse totale de l'eau a toujours été une, elle est une et elle sera toujours une. Et le texte nous dit « Ainsi en est-il de ma parole. » Petit rappel scolaire. Au XVIIIe siècle, un grand savant français, répondant au nom de M. Lavoisier, est resté célèbre pour nous avoir laissé une formule qui tentait d'établir les bases d'une loi, d'un théorème. Et cette loi s'appelle la loi de la conservation de la masse et des éléments. Waouh ! Et il a écrit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se... » Vous êtes magnifique. « Rien ne se perd, rien. » Si nous revenons à notre chapitre 55, voilà comment le prophète Ésaïe conclut. « Cela rendra glorieux le nom de l'Éternel. Ce sera un signe perpétuel qui ne sera jamais retranché. » C'est une ancienne version Osterwald. « Rien de ce qui est Dieu, quel que soit son cycle, son état, son mouvement ou sa distribution, rien de ce qui est porteur de l'étincelle divine ne se peut perdre, ne se peut égarer ou disperser. Selon un mouvement perpétuel qui ne sera jamais retranché, tout ce qui est de Dieu, qui emporte la marque, qui emporte l'empreinte ou l'esprit, revient invariablement à lui. » En beaucoup mieux dit, l'apôtre Paul nous a laissé une formule percutante dans son épître aux Romains, chapitre 11, verset 36, il écrit « Tout est de lui, par lui et pour lui. » Deux remarques avant de rentrer dans le vif de notre sujet. Première remarque. Le langage populaire emploie volontiers des expressions parfois étonnantes pour désigner l'instant T de notre mort. Nous disons rendre l'esprit, rendre l'âme, rendre son dernier soupir, rendre son dernier souffle, comme si dans l'esprit commun, il était acquis que nous avions à rendre à un hypothétique propriétaire quelque chose qu'il nous aurait prêté, comme si on lui retournait quelque chose dont il serait de facto l'ultime destinataire. Deuxième remarque, un peu plus cavalière. Tout le début du premier chapitre de l'épître de Jean nous présente le Fils de Dieu comme étant la parole. Verset 1, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, ainsi de suite jusqu'au verset 13. Si nous essayons, un peu comme une expérience de laboratoire, d'appliquer le principe d'Ésaïe à ce Christ-parole, nous constatons qu'il a effectivement été envoyé, qu'il a effectivement produit les effets ou obtenu les effets souhaités par Dieu, et qu'après sa mort et sa résurrection, il est effectivement retourné auprès de son Père. Marc chapitre 16, verset 19, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Nous allons organiser notre réflexion autour de deux axes principaux. Premier développement, quel impact ce retour vers Dieu a-t-il sur les chrétiens ? Deuxième développement, qu'en est-il ? Qu'en sera-t-il ? De celles et ceux qui négligent, qui refusent ou qui réfutent le message de la parole de Dieu, notamment lorsque cette parole est portée par son Fils Jésus-Christ. À propos de ce principe de retour appliqué aux chrétiens, la liste des éléments à retenir serait très très longue. Nous en avons choisi quatre. La conversion, le souffle de l'esprit, un nom nouveau et le chrétien messager de la parole. Premier point, la conversion. Vous le savez tous, se convertir, c'est faire demi-tour pour réorienter le sens de son parcours. C'est changer de direction. Une chrétienne, un chrétien, c'est quelqu'un qui a pris conscience d'être dans une dynamique de perdition et qui, en conséquence, a pris une résolution radicale, celle de croire et d'accepter personnellement le salut offert en Jésus-Christ en s'abandonnant définitivement entre ses mains pour s'en remettre à lui seul, tout en le reconnaissant comme seul Seigneur et seul Sauveur. Se convertir, c'est le tout premier pas qui nous engage sur le chemin du retour vers le Père Céleste. Monsieur Lavoisier a dit, rien ne se perd. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 39, Jésus dit, « La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné. » Suivre Jésus sur le chemin du retour vers Dieu, c'est tourner le dos à la perdition, mais c'est aussi signer un acte d'appartenance. Désormais, par Christ, nous sommes de Dieu. Nous lui appartenons. Or, Dieu ne laisse rien perdre de ce qui lui appartient. Il ne se sépare jamais d'une part de lui-même. Pour reprendre les mots d'Ésaïe, ce retour à lui est un mouvement perpétuel qui ne sera jamais retranché et qui participe à la gloire de son saint nom. Tout est de lui, par lui et pour lui. Deuxième point, le souffle de l'esprit. Il y a dans les évangiles un passage un peu étonnant, qu'on cite assez rarement, je crois, et qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 22. C'est Jésus qui parle, mais il parle après sa résurrection. Après avoir dit cela, Jésus souffla sur eux. Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Comment ici ne pas penser en parallèle au texte de la Genèse, chapitre 2, verset 7, Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Dans le texte de Jean, Jésus apporte à ses disciples un second souffle, celui d'une autre vie dans une autre dimension qui, elle, contrairement à la précédente, ne vient pas de la poussière. Cette régénération, que nous appelons la nouvelle naissance, réitère, confirme et établit notre appartenance entière, exclusive et définitive à Dieu. Or, Dieu est jaloux de ce qui lui appartient. Il n'en laisse rien perdre. Cette part d'Esprit Saint dont nous sommes le temple est destinée à revenir à Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, le souffle retourne à Dieu qu'il a donné. Le souffle retourne à Dieu qu'il a donné. Premier point, la conversion. Deuxième point, le souffle de l'Esprit. Troisième point, un nom nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ésaïe chapitre 65, verset 15. Il appellera ses serviteurs d'un autre nom. La nouvelle créature que nous sommes devenus en Jésus se voit attribuer un nom nouveau. C'est quoi un nom ? C'est un vocable, c'est un mot qui définit une identité, c'est l'identification d'un vivant au singulier. Au singulier. Et pour Dieu, ce nom nouveau équivaut à un acte d'adoption. 1 Jean 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Nous sommes de lui, nous sommes par lui, et nous sommes pour lui. Par ailleurs, les Écritures nous apprennent que ce nom est inscrit dans un livre. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 20, Jésus dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. » Apocalypse, chapitre 20, verset 15 « Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. » Premier point, la conversion comme le premier pas d'engagement sur le chemin du retour. Deuxième point, nous avons reçu le souffle de l'Esprit-Saint qui revient à Dieu qu'il a donné. Troisième point, nous portons un nom nouveau inscrit dans le livre de vie. Quatrième point, les chrétiens messagers de la parole de Dieu. Voilà comment notre prophète Ésaïe conclut son chapitre 59. Quant à moi, telle est mon alliance avec eux, dit le Seigneur. Mon souffle qui est sur toi et mes paroles que j'ai mis dans ta bouche ne seront pas retirées dès maintenant et pour toujours. Un des effets du souffle de l'Esprit que nous avons reçu est qu'il grave les paroles de Dieu dans nos cœurs et qu'il les met dans notre bouche. Un enfant de Dieu ayant un nom nouveau, est un porteur, un messager ou une messagère de la parole du Seigneur. Or, cette parole est une part de Dieu. Quels sont les effets ou les conséquences de cette parole sur nous? Si nous nous référons au texte d'Ésaïe qui nous sert de fil conducteur, la réponse à cette question est que nous devons produire les effets que Dieu a décidé
d'obtenir. Nous devons réaliser ce qu'il désire. De la même manière que l'eau fait germer, qu'elle donne de la semence et du pain à celui qui a faim, nous avons pour mission impérative de semer cette parole, d'abreuver les cœurs par la bonne nouvelle du salut en Jésus et de présenter ce même Christ comme le pain de vie qui rassasie, qui régénère et qui sauve les âmes perdues. Être chrétien, être chrétienne, c'est être passé par la conversion, c'est avoir reçu le souffle de l'Esprit, c'est porter un nom nouveau et c'est aussi être un ou une messagère, messager de la parole, être des serviteurs et des servantes qui distribuent le pain de vie. Bien d'autres aspects, nous l'avons dit au début, auraient mérité d'être retenus, développés, étudiés. Nous en avons retenu 4. Mais, excusez l'expression, on peut dire que c'est ce package qui nous entraîne vers le retour, un retour sur le chemin de vie et de vérité qu'est le Christ, un retour qui, pas à pas, un pas après l'autre, nous rapproche chaque jour de la demeure éternelle du Seigneur Dieu. Nous avons un deuxième chapitre à traiter. À son propos et pour mémoire, voilà quelles étaient les questions posées. Qu'en est-il, qu'en sera-t-il de celles et ceux qui refusent ou qui réfutent la parole de Dieu et ne font aucun cas de cette parole incarnée en son Fils Jésus-Christ. La Bible répond sans ambiguïté à ces questions. Il n'y aura pas d'entre deux. Il n'y aura pas de marge de négociation. Voici rapidement, 4 citations bibliques. Proverbe 13, verset 13, « Celui qui méprise la parole se perd. » Dans son épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 19, Paul, à propos des ennemis de la croix, dit « Leur Dieu, c'est leur ventre, leur gloire, c'est ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, leur fin, c'est la perdition. » À celles et ceux qui court après les richesses et le profit, 1 Timothée 6, verset 9, il tombe dans beaucoup de désirs stupides et pernicieux qui les plongent dans la destruction et la perdition. Et enfin, Matthieu 7, verset 13, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. C'est quoi la perdition? C'est une errance dans le chaos. Une marche insensée dans le néant. Oh. J'entends d'ici l'argumentaire qui consisterait à dire « Non mais écoutez, là, vous êtes bien gentil, mais ça suffit. C'est déjà pas facile la vie au quotidien. On n'a rien à faire de ce discours culpabilisant. Assez de ce prosélytisme qui fait son lit de nos peurs. Stop. Eh bien, je ne donnerai pas tort à celles et ceux qui pensent comme ça. Je ne leur donnerai pas tort si le message actuel de la parole s'arrêtait là. Mais tel n'est pas le cas. On va essayer de contextualiser tout ça par rapport au temps, avec un futur et avec un présent. Le chapitre 22 de l'Apocalypse nous livre une évocation de ce que sera le paradis. On voit que les choses alors seront accomplies et que Dieu, dans toute sa gloire, régnera éternellement sur les siens enfin parvenus au terme du retour. Mais la parole, elle aussi, sera retournée vers le Seigneur. La Bible nous dit qu'elle subsistera toujours dans les cieux. Dans les cieux. Elle ne circulera plus parmi les hommes. car tout sera dans un aboutissement définitif et une perfection absolue. Mais alors, n'y a-t-il donc aucun espoir d'échapper à cette redoutable perdition? Mais bien sûr que si. Non seulement il y a un espoir, mais c'est un espoir total. Pourquoi? Mais parce que nous sommes dans le temps présent. Ce n'est pas encore le temps de l'Apocalypse. Aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Aujourd'hui, la parole de Dieu circule encore. Aujourd'hui, elle produit encore des effets. Qu'est-ce à dire? Soyons scrupuleux. Nous allons reprendre notre texte d'Ésaïe, mot à mot et dans l'ordre. Cela donne que la parole abreuve encore les gens de la terre, qu'elle féconde encore, qu'elle répand encore sa semence, qu'elle rassasie encore celles et ceux qui ont faim d'autre chose que la perdition que propose le monde. Aujourd'hui, le Christ, parole vivante de Dieu, frappe encore et toujours à la porte des cœurs. Quelle est la teneur de cette parole, de ce message? Ézéchiel chapitre 18, verset 30. Revenez, revenez de toutes vos transgressions, faites-vous un cœur nouveau, car dit le Seigneur, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Revenez donc et vivez. Ésaïe chapitre 21, verset 12, convertissez-vous et revenez. Ésaïe 55, verset 6, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Peut-être êtes-vous troublé, perturbé, dérangé par ce que nous sommes en train de dire. Alors, qu'il me soit permis, avant de conclure, de vous raconter à ma manière, j'ai bien dit à ma manière, une histoire que le Seigneur Jésus nous a laissée dans le chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Figurez-vous qu'un homme avait deux fils. L'aîné, bosseur, était plutôt, on va dire, régulier, tranquille. Mais le plus jeune ne tenait pas en place. Un jour, il va trouver son père et lui demande sa part d'héritage. Et le père répond favorablement à sa requête. Oh là là, voilà notre gaillard parti à l'aventure, enfin libre et impatient d'en découdre. Plus d'interdits, plus de tabous, par ici la belle vie et jusqu'au bout. À ce rythme effréné, sans limite, le jeune eut au fait de dévorer son pécule. Frénétique ou pas, vous savez, la débauche, ça coûte cher. Au bout de quelque temps, la réalité était bien là. Plus de thunes, plus de toit et rien à bouffer. Oh, il finit bien par trouver un petit boulot. Mais quelle dégringolade! Après Sea, Sex and Sun, le voilà gardien de cochon. Quelle impasse, n'est-ce pas? Quelle tragédie pour lui. Luc chapitre 15, verset 17. Rentré en lui-même, il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, je meurs de faim. Verset 20, alors là, c'est la conversion. Il partit pour revenir ou retourner ou rentrer chez son père. Et l'histoire, vous la connaissez tous, s'achève d'heureuse manière. En effet, pendant tout ce temps, son père n'avait pas cessé d'attendre son retour. Quand il le vit, il se jeta à son cou pour l'embrasser et s'adressant à la maisonnée, il dit « Mon fils était mort et il a repris vie, il était perdu et il a été retrouvé. » Ah, mes amis, l'histoire du fils prodigue est la plus belle histoire de retour qu'on ait jamais racontée. Aujourd'hui encore, Dieu attend. Aujourd'hui encore, sa parole veut nous entraîner avec elle vers le retour en éclairant chacun de nos pas. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Amen.